Les connus face à l'inconnu, tous les mercredis de 12h à 13h avec Yves Cara.
Bonjour à toutes et à tous, les connus face à l'inconnu, tout est dans le titre. J'invite une personnalité connue pour parler de sa vie, son œuvre, son parcours, son actualité, ses projets et aussi aborder tous ces sujets qui contiennent une part de mystère et d'inconnu qui nous réunissent tous dans cette web radio pour connaître un petit peu la sensibilité de l'invité qui est aujourd'hui Tex.
Bonjour à tous.
Salut Tex.
Mysterio. Il y avait un couple que j'adorais de comiques italiens qui s'appelait les...
Les Barrios.
Pas les Vitelloni. Non, ils s'appelaient comment la vache. Ils sont super connus en plus. C'était deux clowns italiens vachement connus. Il y en avait un qui disait toujours Mysterio. Ils faisaient des trucs sur scène et c'était toujours Mysterio. J'en reviens pas de pas retrouver leur nom.
Le mystérieux, ça va bien avec l'émission.
Ouais, exactement.
Jean-Christophe Le Texier dit Tex.
On a dévoilé un truc que je ne veux que personne sache. Mon prénom, ni l'âge.
Ouais, mais là,
tu parles pas de l'âge. Hein.
L'âge, on n'en parle pas. Mais voilà. C'était justement l'inconnu, c'était le nom le et c'était le prénom. Néo-croisic en Loire-Atlantique, le... Arrivé à 3, hein. Des enfants?
J'ai 3 enfants.
Une fille et 2 fils.
Voilà, une grande fille qui en ce moment fait son stage de 3e. Le fameux stage de 3e.
Ouais, c'est ça. Ça, tu le fais sur scène.
Ça, c'est les boutons.
L'ado,
ouais, voilà, elle fait ça. Et puis mes deux ptios, il y en a un qui est au collège et l'autre qui est encore à l'école.
Tex, donc médaille d'or du conservatoire de Troyes, donc comédien dans l'âme. C'était en 82, début des années 80.
Super, tu te rends longtemps, compte.
Comédien dans l'âme. Ensuite, spectacle, 30 ans de spectacle. Les amours, évidemment, depuis 2000, ça fait 14 ans. Mais surtout le spectacle que je suis allé voir donc à Paris.
Le délire.
Le délire. État des lieux, un vrai délire. Alors, au théâtre de 10h, vendredi et samedi à 21h30 à Paris et dans la France entière tout au long de l'année.
Ouais.
Et j'ai même noté le 13 décembre au Zénith de Caen. Pour avoir les dates entre maintenant et le 13 décembre, vous allez sur le site text-comique.com
voilà,
et vous aurez tout et vous aurez tout dessus. Tex, est-ce que tu es prêt à te dévoiler dans cette émission, les connus face aux inconnus?
À me dévoiler, j'en sais rien. Il faut se dévoiler, c'est les connus face à l'inconnu. Allons-y pour les connus, c'est bientôt l'été. Voilà l'été, allons-y.
Ça y est, le ton est donné. Alors, Tex, d'abord, une question, deux questions exactement, et je commence toujours cette émission avec ça. Qu'est-ce que pour toi l'inconnu, hein? Qu'est-ce que tu mets dans cet inconnu? Quels sont les sentiments qui accompagnent cet inconnu?
L'inconnu, c'est par essence et par définition tout ce qu'on ne connaît pas de toute façon. Et puis, ce que je mets derrière ça, c'est toutes les surprises que peuvent vous dévoiler la vie. Moi, je me suis toujours arrangé pour me mettre à la porte des surprises en évitant de prendre la porte dans la figure. C'est-à-dire que je suis assez prévoyant, mais en même temps, je me laisse aller à toutes ces découvertes et à toutes ces choses qui peuvent arriver dans ce métier de comédien. D'ailleurs, c'est génial parce qu'on peut faire du théâtre, du cinéma, du one-man show, des voix, de la télévision, de la radio, etc. Donc ça, c'est déjà, en termes d'inconnus, plein de choses qui nous sont proposées et qu'on peut découvrir. C'est assez factuel, mais c'est des choses qui vont nous arriver dans notre carrière de comédien. Et puis après, dans l'inconnu et l'ésotérisme, il y a tout le reste. Moi, une de mes devises, c'est faire en sorte que le lundi ne ressemble pas au mardi et encore moins au mercredi.
Tu aimes la surprise?
Ah oui,
la surprise de l'inconnu, c'est le lendemain, tu ouvres la fenêtre et tu dis bonjour la vie, on y va, on avance.
Pas seulement le lendemain, mais le soir même, déjà, en parlant de fenêtres ouvertes, moi je passe, je crois, allez, on va dire un tiers de mes nuits à l'hôtel, puisque je suis toujours en tournée.
Ah oui.
Et un tiers de mes nuits à l'hôtel, ça veut dire qu'il y a des tas de matins où j'ouvre la fenêtre en oubliant complètement où je suis, où je lève un œil en me disant je suis dans quelle chambre, je suis à la maison ou je suis à Lons-le-Saunier. Ah non, on est à Lille. Ah non, finalement, non. Ah, c'est la mer, on est au Mont-Saint-Michel. Voilà, donc ça, moi, j'adore ça.
Ouais. T'aimes c'est génial. T'aimes cette vie de nomade.
C'est la vie du comédien nomade, oui, avec le luxe et honté, en plus, parce que on n'est pas dans des... c'est pas la carriole de Molière, hein.
Ouais,
on est dans des super beaux hôtels, on est reçus comme des rois. Ah non.
Quand ça marche, hein. Il y en a qui doivent être moins dans des hôtels de rois. Donc voilà, l'inconnu.
Pour que ça marche, il faut en vouloir, il faut vouloir que ça arrive, quoi, en fait, voilà.
Alors, on va revenir justement à l'origine, parce que on te connaît, et je te connais depuis pas mal d'années, mais quel enfant étais-tu finalement? Parce que quand on dit, quand on lit, donc t'as fait le conservatoire, t'as réussi, t'étais comédien dans l'âme. Est-ce que tout petit déjà t'avais ça en toi ou est-ce que c'est venu après? Parce que
je suis monté sur scène faire ce qu'on appelait les kermesses de fin d'année. C'était en province, donc ça se faisait un peu plus les spectacles de fin d'année à l'école. Encore que j'ai vu mes enfants en banlieue là faire tous ces spectacles de fin d'année. Et moi, à chaque fois, je regardais ça avec des yeux émerveillés, puis je chopais les premiers rôles.
À chaque fois,
parce que je trouvais que les autres, ils ne le faisaient pas bien. Alors, je disais, maître, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et tout. Ils disaient, oui, bah, tu vas faire D'Artagnan. Peter Pan, bah, toi, tu vas faire le copain de Peter Pan. Alors, l'autre, il faisait Peter Pan. Je fais, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Peter Pan, il fait tin. Oui, bon, tu vas faire Peter Pan. Une année comme ça, j'ai eu les 5 premiers rôles. Mais les autres ne réclamaient pas. J'étais le seul à réclamer, à vouloir avoir ces rôles. Parce que mais pas parce que je réclamais les rôles, en réalité. Parce qu'instinctivement, je savais qu'il fallait le faire comme ça. C'est-à-dire que. J'aime bien d'ailleurs cette théorie du comédien dans l'âme, mais c'est des choses que je sais faire instinctivement. Quoi. Voilà. Je ne joue pas la comédie, je suis dans la comédie.
Bah, quand on te voit sur scène dans État des lieux, donc ton dernier spectacle, mais c'était déjà le cas avant, t'as un pouvoir d'improvisation, de captation du public et de rebond sur ce qu'ils te disent, qui est absolument, et je sais de quoi je parle, ahurissant.
Parce que c'est mon école un peu.
Mais c'est au dixième de seconde. Tu peux pas dire, attendez, bougez pas, vous m'avez dit que vous étiez électricien, donc je cherche, ça part dans tous les sens. Il n'y a pas une sorte de lâcher prise quand on fait ça?
En permanence. Il faut non seulement du lâcher prise, mais il faut un truc en parallèle de ce lâcher prise. C'est presque antinomique, mais tu fais du lâcher prise complet, c'est-à-dire que tu es prêt à faire n'importe quoi, et en même temps, dans un énorme maintien. C'est-à-dire, c'est un espèce de lâcher prise d'escaladeur. C'est-à-dire que tu vas escalader ce public, donc tu vas te lâcher, tu sais, comme Destivel qui monte la montagne, il va lâcher les pieds, mais il va être super branché sur ses autres prises en haut. Et voilà, tout est super maintenu. Et surtout, le mot principal, et je le cherche en même temps, c'est pour ça que je baratine énormément, c'est assumer. Voilà, assumer. Il faut assumer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es sur scène, tu peux dire n'importe quoi, à partir du moment où c'est assumer. Si tu commences à douter, tu vas faire douter le mec qui est en face de toi, tu vas faire douter toute la salle, le doute va revenir vers toi et ça s'appelle un bide. Donc tu es obligé d'assumer.
Assumer ce que tu dis.
Tu es capable de dire à un mec qui est à un mètre de toi, vous êtes gros mais c'est pas de votre faute, le mec va rire et tout. Et si tu ne l'assumes pas, le mec va pas rire, ça va te revenir dessus, tu vas dire pourquoi j'ai dit ça, tu vas mettre tout le monde mal à l'aise et ça, c'est au millimètre. Voilà. Ouais. Et cette gymnastique, je la fais aux amours tous les jours.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Tous les jours, le mec me dit un truc, paf, paf. Et encore, il y a, comme on est à 11h30, les gens n'imaginent pas le nombre de trucs que je retiens. Je retiens, mais que je garde, que je peux pas envoyer des vannes.
Que tu retiens, oui, que tu peux pas dire parce que c'est 11h30. Ouais, d'accord. Voilà. Ah, bah oui, mais quand on va te voir sur scène, effectivement, l'histoire du curé qui revient de Thaïlande, par exemple, qui te suit tout le long du spectacle.
Voilà. On espère que celui-là, il viendra pas à la télé. Ouais.
Et cet échange d'énergie avec le public, t'étais un peu né pour ça. Tu l'avais déjà tout petit, c'était cette espèce de, je dirais, de don divinatoire de ce qu'on va te dire et sur ce quoi tu vas rebondir. Parce que t'es un peu en anticipation en permanence.
C'est gentil de dire que c'est divinatoire, mais c'est surtout que c'est induit. C'est-à-dire que quand on parle au public, quand on va chercher des choses des gens, on a instinctivement le sentiment qu'ils vont nous répondre. Les jours où on n'est pas en forme, c'est pour ça que le plus important quand on monte sur scène, c'est d'être en forme. Le jour où t'es pas en forme, tu vas t'adresser aux mauvaises personnes. Qui vont te renvoyer des mauvais trucs.
Instinctivement, comme ça, c'est pas le bon jour.
Ah, le jour où t'es en forme, tu dis, lui, je sais qu'il va me donner tel truc. Il y a même des jours où je suis super en acuité et je peux deviner les jobs des gens. Je me suis amusé déjà à faire ça.
Mais c'est de la prémonition, ça, c'est de la médiumnité un petit peu. C'est de la télépathie.
J'irai pas jusque-là, je pense que les gens portent en eux ce qu'ils font.
La morphopsychologie?
Il doit y avoir un petit peu de ça. Et je m'amuse aussi à faire une carte postale du lieu, puisque là, il se trouve que je rejoue à Paris depuis 6 mois, puisque là, on est en février, et je vais terminer à la fin mars. Mais ça faisait 10 ans que j'avais pas joué à Paris, et avant, j'allais donc dans toute la province, puisque je faisais entre 50 et 100 dates par an, donc ça fait, je vais passer 5000 spectacles là.
Oh,
donc c'est
beau,
un truc de fou. Et 5000 émissions de télé aussi.
Ouais. En même temps.
Ouais, tout. C'est ce qui fait que ça donne un peu de.
Allez, je te le fasse 5000.
Un peu de professionnalisme et de savoir-faire, finalement, à terme. Même si c'est un peu. C'est pas. Allez, soyons pas prétentieux, assumons. Et quand j'allais comme ça à Clermont-Ferrand, ça m'est arrivé à Clermont ou à Monaco. À Clermont, je demande des gens pour avoir une carte postale du lieu. À Clermont, j'ai eu un mec qui dessinait des pneus, un qui travaillait dans un garage, et le troisième, il était notaire. Et là, tu as une espèce de vraie carte postale de ce qu'est Clermont-Ferrand. À Monaco, j'ai eu un banquier, un avocat et des femmes qui ne travaillaient pas, mais qui faisaient des œuvres, etc., etc. Dans chaque endroit, tu arrives à ressortir...
Avec le public dans la salle.
Tu arrives à ressortir la vraie carte postale du lieu sur 5 questions. Tu te trompes très rarement.
Et ça, c'est l'expérience. Et c'est aussi l'esprit totalement tourné vers le public, vers les autres.
L'écoute.
Hein, c'est ça. Hein.
L'écoute qui donne. C'est-à-dire, tu donnes aux gens la possibilité de parler. et tu attends un retour. Parce que l'écoute qu'il prend, c'est pas terrible.
Non, mais c'est fabuleux ce que tu nous dis, parce que tu montes sur scène et tu peux, en étant complètement dans le lâcher prise, en voyant les gens, la morphopsychologie, connaître, anticiper en fait, avoir un temps d'avance sur ce qu'ils vont te dire et pouvoir presque contrôler leur discours.
Ça, c'est fabuleux, ça se voit un petit peu, alors c'est presque chiant pour moi, parce que ça se voit un peu à l'image quand on enregistre des sketchs ou quand les sketchs passent à la télé. Moi, c'est ce que je vois. Je vois que dans mon œil, je suis en train de réciter le sketch,
ouais,
mais que je suis en train de regarder les gens. Je le vois dans mon œil. Et il y a un mec qui m'a fait ce reproche là dernièrement, c'est bizarre, qui m'a envoyé un mail, qui m'a dit « On a l'impression que vous êtes sans arrêt en train de nous observer. » Mais il a pris ça comme un reproche. Alors qu'en fait, c'est complètement ce que je fais dans mon boulot. C'est mon acuité à être en apathie avec les gens, en empathie.
Empathie, bah oui, parce que comme t'es comédien, tu te nourris du comportement des autres et tu le reproduis sur scène. C'est Jackie Tom Tom, c'est le curé, c'est tout ça. Jackie Tom Tom, c'est un grand moment, hein. Faut aller le voir. C'est le chanteur de 80 ans, mais voilà. Alors là, c'est...
Le chanteur de maison de retraite.
Ah, yeah.
Auprès de ma sonde, il fait beau, fait bon.
Voilà. Il y a tout un répertoire comme ça, en modifiant les titres. C'est à hurler de rire.
Je me fous de monde entier, etc. etc.
Et sur Internet, moi j'ai vu aussi ta prestation de Jackie Tom Tom au Festival de Montreux, donc en entier, donc différente, parce que c'était une petite salle, le théâtre de 10 heures. Là, c'était une grande salle, et c'est encore sublimé, c'est encore plus fort.
Ah,
une petite salle, c'est pas évident, une petite salle.
C'est totalement différent, et c'est super difficile. Mais quand on peut faire des petites salles, on peut tout faire. Moi, j'ai déjà joué dans des zéniths. Et au Festival de Montreux, il y a plus de 1000 personnes. Et où j'ai eu une des plus grandes récompenses de ma carrière. Parce qu'au milieu d'un sketch, j'ai eu une standing ovation au milieu d'un sketch.
Oh,
c'est un truc de fou. Je ne sais pas si ça peut arriver.
Récemment,
ça a dû arriver à d'autres. Oh non, c'était il y a 5-6 ans. Parce que j'avais un sketch qui parlait des Suisses, etc. Qui était un sujet que je maîtrise assez bien. Et au milieu du sketch, ils sont tellement reconnus. Standing ovation, c'était incroyable.
C'est beau ça, hein.
Ah ouais, c'est magnifique.
Alors, on revient quand t'étais enfant. Est-ce que avec cette acuité, on va dire acuité, allez tiens, t'as eu déjà des rêves prémonitoires où tu voyais déjà ta trajectoire de comédien? Il y avait pas de doute, c'était ça et rien d'autre.
Oh non, je suis vraiment sur du court terme et éventuellement professionnellement, c'est plus difficile d'être à court terme, donc je suis à moyen terme. Mais j'ai jamais été à long terme. Non. Non, moi je crois énormément, hein, puisqu'on est dans les sciences occultes, on va dire, et l'inconnu. Moi, je crois énormément à la numérologie. Et je pense qu'on est sur des cycles de 9 ans les uns les autres, etc. Là, je vais arriver, je suis en année 8, donc il se trouve que en année 8, c'est l'année de l'argent.
Mm-hmm.
Et le 8, normalement, soit tu gagnes beaucoup d'argent, soit tu as des problèmes d'argent. Et là, il se trouve que c'est une année où j'ai des problèmes d'argent. Mais c'est comme ça.
D'accord.
Et l'année 9, ça termine un cycle et c'est en général une explosion. Donc, c'est un mélange des deux et je pense que je vais passer une très très belle année 9. Et puis après, je vais repartir sur 9 ans. Et peut-être que ça va être 9 ans d'ésotérisme complet. Je finirai peut-être...
Chez Bob.
Dans le Gange, en train de faire la planche 3 jours par semaine. J'en sais rien, quoi. On ne sait pas ce que va nous amener demain. Maintenant, il se trouve que j'ai une famille, etc. Des responsabilités, mais j'ai bâti mes arrières. Mais pour autant, je me laisse aller à toutes les surprises.
La numérologie.
Ah oui, oui.
Est-ce que tu as déjà...
Thierry Colby.
Ouais, bien sûr.
On connaît tous Thierry.
Bah ouais, c'est celui qui programme l'émission de Frédéric
Lopez. Et Thierry passait des journées chez moi et des soirées. On faisait des soirées où dès que je disais qu'il était numérologue, il n'y avait plus une pour lui. Toutes
Thierry Colby est numérologue.
Oui. Ah, il connaît ça par cœur.
Ah ben, je sais pas. Pourtant, c'est un ami. Je le découvre. Ouais,
ah, mais
tu
Thierry
vois,
connaît la numéro par cœur. C'est un fou. C'est incroyable. Alors le 1, forcément, c'est le début de quelque chose.
D'accord.
Le 2, c'est l'association avec quelqu'un, le mariage en année 2, on peut rencontrer l'être aimé. 3, c'est l'arrivée d'un enfant, une association avec quelqu'un, association positive ou négative. 4, c'est le chiffre du travail. Le 5, c'est le voyage et les déplacements. Le 6, c'est l'année de l'amour. Le 7, c'est la relation à autrui. 8, l'argent. Et 9, la chance.
9, la chance.
Voilà.
Bon, je suis en année 9. De la chance, je suis chez Bob, c'est déjà de la chance.
Bah voilà,
attends,
et puis,
tout va bien.
Et puis tout ce qu'on prépare en année 9 nous sert de tremplin pour les 9 années à venir.
Eh ben, c'est bien, j'ai plein de projets. Écoute, ben, c'est fabuleux. On a une consultation de numérologie. Tu vois, Mathieu, hein, Mathieu qui fait aussi une émission de 20h à 21h avec des médiums et qui est à la réalisation.
Tu connais ça, la numéro?
On est en plein dedans. On en fait tous les vendredis, on est en plein dedans.
Parfait. Je suis pas trompé, hein.
Non, c'était parfait.
D'accord.
Alors, dans ta vie, dans tes cycles, c'est quoi? C'est 7 ans, 9 ans?
C'est 9 ans.
De toute façon, c'est 9 ans.
C'est étrange. Le 3 et le 7, c'est des chiffres difficiles à passer. Mais le 7, c'est des chiffres symboliques énormes, hein. Les 7 branches d'Israël, les 7 nains. et puis les 7 mercenaires.
c'est vrai.
Et le 3, il y a beaucoup de chiffres en 3, etc. Parce que c'est des années difficiles, les années 3. Parce que ça peut être soit la fin d'un mariage, soit l'arrivée d'un enfant, soit l'arrivée de quelqu'un extérieur, soit un couple à 3. Je trouve que le 3, c'est les années les plus difficiles à traverser.
Est-ce que tu regardes ça pour tes proches aussi, pour tes enfants ou tout ça?
Oui.
Tu leur dis aussi, ils disent, ouais, papa, arrête de m'énerver avec ça. Parce que l'ado, il le fait aussi sur scène. Ouais. Hein, c'est un grand moment.
Hein. Et puis tu peux faire aussi ce qui est assez passionnant, tu peux faire la numérologie du nom et du prénom.
Ah oui, tu fais ça.
Tu prends ton nom, ton prénom et tu regardes les lettres qui te manquent. Et quand il te manque des lettres, il te manque des chiffres sur les 9 chiffres. Et ça, c'est les faiblesses que tu auras dans ta vie. Et celles que tu as en majorité, ce sera les forces de ta vie.
Ah oui, il est vachement calé. Hein. Voilà. Ah ouais, quand même.
Moi, d'accord. Le 8, par exemple, qui est le chiffre de l'argent, ça a toujours été un chiffre fort pour moi. Et j'ai toujours trouvé que c'était très important de gagner sa vie avant de la dépenser.
Ouais,
par exemple, voilà, et c'est vrai. Et j'ai des manques dans le 5 et le 6. Enfin, pas dans le 5. Le 5, le voyage, c'est très important, très marqué. Mais le 6, l'amour et tout ça, c'est un truc qui m'échappe un peu. Et malgré tout, je présente cette émission des amours.
Ah oui, ouais. La vie privée est plus compliquée peut-être quand on est comédien tout le temps sur scène. Ah
non, c'est pas ça. C'est très bien d'avoir un manque à ce niveau-là, parce que du coup, t'es toujours en appétit de savoir et d'apprendre. Hein. L'amour, c'est un truc que je racontais ce matin, que je suis très très étonné de l'impact que je peux avoir moi sur les 12-16 ans, mm-hmm. qui sont normalement des gamins que je devrais pas toucher. Enfin, même les 12-20 ans, on va dire. Ou 15-20 ans, vraiment les ados. Pourquoi ? Parce que ces gamins, ils ont vécu entre 10 et 20, en regardant cette émission, et entre 15 et 20 ans, qu'est-ce qui t'intéresse à part l'amour ?
Ouais,
c'est le
c'est
truc
vrai. Ça
travaille
pas mal. Ouais.
C'est
d'accord.
Le truc qui te travaille en permanence. Tu dors là-dessus, tu t'endors là-dessus, si tu te suicides, c'est à cause de ça, etc., etc., etc. Ça vaut pas la peine de se suicider, je dis à ceux qui nous écoutent.
À cause de l'amour ?
Ah oui, certainement
non, c'est
pas.
C'est
parce que
une de perdue, c'est une de perdue.
Et puis surtout, ouais. La vision que t'as à 16 ans, elle sera tellement différente 4 ans plus tard que si t'es pas là, tu pourras pas en profiter, mon pote.
Et tu as déjà été consulté des numérologues, des médiums, des voyantes ou des choses comme ça ? Ouais.
J'ai une copine qui est voyante. À un moment donné, j'étais sur un gros business pour acheter une maison, un truc comme ça. Et en fait, j'avais été approché par des truands, mais je m'étais pas rendu compte que c'était des truands. Et les mecs, ils m'ont dépouillé. Mais grave.
Il y a longtemps.
Et je suis allé la voir la veille de la transaction. Elle me dit, tu peux y aller. Tu peux faire confiance à ces mecs-là. Et les mecs m'ont dépouillé. Ils m'ont filé des faux billets. Moi, j'ai donné des euros. Je les ai jamais revus. Ils sont partis en bagnole. Le mec dit, on va compter dans la voiture. Et au moment où moi j'ai compté mes billets et que j'ai vu que c'était marqué spécimen dessus, il était trop tard. Les mecs étaient partis.
Ouais. Ouais, donc c'était déjà limite beaucoup, au niveau de la transaction, voilà. Et puis voilà, quoi, d'accord.
Mais c'est surtout, c'est ce qui était très limite, c'est la voyance.
Bon, on donnera le nom aux antennes, puis on demandera à Mathieu si elle fait partie de la liste.
Le pire,
je pense
c'est de sonner chez une voyante, ça fait ding-dong, c'est qui ? Au revoir.
C'est ça. Ding-dong, c'est qui ? Au revoir. J'aime bien, super. Donc, la numérologie, très intéressant, et aussi pour les autres. Est-ce que tu as, on va revenir à ton enfance, est-ce que t'avais déjà cette sensation, parce que là, on va venir à des idées de destinée. Est-ce que tout est écrit ou pas? J'ai l'impression que pour toi, c'était écrit. Ouais, j'ai l'impression que pour toi, c'était écrit déjà d'être comédien, que tu ne donnais pas le choix et que tu avais déjà ça en toi. À quel âge tu t'es dit, je serai comédien?
Non, parce qu'en réalité, moi, je voulais, puisque le 8, il était assez fort chez moi, je voulais assurer ma vie, quoi. Et comme je voulais assurer ma vie et gagner ma vie, j'ai fait à l'époque instituteur, mais déjà parce que là, je pense qu'on devrait tous faire un an ou deux dans sa vie d'enseignement. C'est vachement important. Moi, je voulais être un style. Je trouvais que c'était fondamental de faire ça. C'était, je trouvais que c'était un beau métier. Je me voyais dans une petite école.
Mais toi, t'avais quoi
campagne.
T'avais 20 ans, un truc comme ça 20 ans, 25 ans
16, 17 déjà, je voulais être un style.
Ouais.
Le rêve de gosse, un peu, instituteur. Ils n'ont plus maintenant, les gamins.
T'es déjà sur scène quand t'es un style, finalement.
Non.
Non, mais finalement,
oui,
t'es déjà sur scène.
Scène.
Il y a
oui,
un peu de ça.
Il
y a un peu de ça.
Ah oui, prof ou un style, t'es un peu sur scène.
Un peu sur scène. T'as du public et tu transmets quelque chose.
Mes potes, ils me disent ça. J'ai plein de potes qui sont un style. Ils me disent, on est quand même un peu sur scène, on fait un peu du show. Et puis, donc, je voulais faire ça. Moi, j'ai fait un site. Et puis après, je me suis aperçu que c'est un peu le bordel. J'ai voulu aussi faire du commerce. Avant de faire un site, j'ai voulu faire du commerce. Je me suis aperçu que c'était beaucoup de travail aussi. Et puis que le chemin allait être un peu plus long. Et j'ai décidé réellement d'être comédien à 28 ans. C'est pour ça que je dis souvent aux gamins qui décident de leur vie à 16 ans, moi, je ferais ça et tout. Je leur dis, oulala, faites-le. Passionnez-vous pour ça, mais dites-vous que ce sera un des chemins et ça sera peut-être pas le définitif, quoi.
Et tu prenais des risques, parce qu'avec un chiffre 8, donc de l'argent à 28 ans, qu'est-ce qui t'a fait basculer là-dessus? Tu te dis ça, je pourrais gagner ma vie?
Oui, là, j'ai pris des risques.
T'as pris
non,
des
non,
risques,
non, 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 c'était pas du tout pour gagner ma vie. Non, c'était même au contraire, j'ai pris vraiment des risques.
Mais c'est opposé à ton chemin de vie, presque de 8.
Ouais, mais là, c'est beaucoup plus instinctif. Je savais qu'il fallait que je fasse ça. Parce que dans sa vie, il ne faut pas laisser de regrets, quoi. On peut avoir des remords, mais il ne faut pas laisser de regrets.
Tu as eu une opportunité à 28 ans? Ou tu t'es dit, je lâche tout, je pars?
J'ai eu 6, parce que je suis rentré au Club Med et je lisais un truc de... Je suis en train de lire Plateforme en ce moment de Houellebecq, où il dit... quand t'es un animateur dans un club de vacances, à part devenir chef de village ou animateur télé, il n'y a aucune issue. Et moi, j'ai eu cette issue-là, donc, d'être animateur télé. Mais c'est ça qui m'a formé, voilà. C'est les clubs de vacances.
Ouais, d'accord. Et donc, au retour des clubs de vacances, tu t'es dit, je ne peux pas retourner dans ma vie normale.
Bah déjà, oui. Et puis surtout, quand t'es formé pour monter sur scène, tu sais monter sur scène, t'en as eu la récompense, t'en as eu l'envie, et là, t'as plus envie de la lâcher, c'est autre chose.
Ouais. Tu as écrit tes propres sketchs?
Ben oui, t'es obligé de te servir à un moment donné. Ouais. J'ai commencé en jouant des sketchs de Pierre Péchin, d'Alex Métayer.
Ah, c'est vrai qu'il y a un peu de Pierre Péchin en toi.
Ah,
oui,
ben moi,
c'est vrai.
J'adore
ah, bah oui, oui, c'est vrai,
on,
c'est vrai.
On va partir en tournée ensemble avec Pierre dans
ah
Les
bon
Éternels du Rire.
Ouais, ouais. Et oui. Les et Éternels du Rire, une grande tournée en 2014 dans tous les Zéniths de France.
Ah ouais.
Pour avoir les dates, vous allez sur le site texte-comique.com où vous tapez.
Avec un casting de fou, hein, t'as vu.
Ouais.
Hein
ouais, ouais,
on est avec Jolivet, Magdane, Lafesse, Bigard, Smaïn, Popek, Gustin, Bernard Ménez. Et on va s'éclater, ouais.
C'est
Péchin,
énorme.
Et Péchin,
Alors réservez vraiment longtemps à l'avance parce que il y en aura pas pour tout le monde.
On va venir dans toute la France.
Ouais, dans toute la France. Ouais, ouais. Donc voilà, si vous voulez, vous tapez sur Google ou sur un moteur de recherche.
Éternel du rire.
Éternel du rire. Ou vous allez sur le site de Tex et vous regardez les dates. Allez-y parce que ça va être énorme.
Ouais,
c'est une grande première, cette tournée.
Oui, c'est une première. C'est la première fois qu'on fait une tournée à plusieurs. Jean-Marie, il en avait vraiment l'envie. Il voulait appeler ça le gros Bigard Circus, mais bon. Après, il faut l'organiser, etc. Et là, il y a des producteurs extérieurs qui s'y sont mis et on va s'éclater, je pense.
C'est un peu dans l'esprit des tournées années 80, des trucs comme ça, quoi.
C'est un petit peu, d'ailleurs. C'est les producteurs d'Achetendre et Tête de Bois qui font ça.
Ouais,
c'est Liane Folly qui va présenter. Ce sera la seule présence féminine et on va s'éclater.
Qui est une grande imitatrice aussi, hein.
Ouais, qui
imite très, très bien.
Ouais.
Donc, et qui a un fort pouvoir comique.
Exactement. Qui est en place.
On en reparlera dans bien sûr, Bob, vous dites la vérité. On fait une petite pause et puis on se retrouve tout de suite.
Les connus face à l'inconnu avec Yves Cara.
Alors, toujours avec Tex dans Les connus face à l'inconnu. Tu vois, moi, les gens qui viennent dans cette émission, je les connais souvent depuis très longtemps, mais j'apprends plein de choses sur eux, notamment Thierry Colby, qui est un numérologue.
Je ne savais pas ça.
Et que toi, tu étais très très calé en numérologie. Que on rejoint des cycles, en fait, des cycles
Là,
et c'est vrai que c'est peut-être moins. On est moins dans l'art divinatoire, dans quelque chose de plus rationnel, entre
c'est
parenthèses.
Assez rationnel,
c'est assez rationnel.
C'est assez facile à apprendre, mais faut aimer faire des calculs. Vous pouvez acheter plein de petits bouquins comme ça sur la numéro ou aller sur Internet et vous intéresser à la numéro. Vous en apprenez les bases et vous allez énormément vous amuser avec ça.
Mm-hmm.
C'est vraiment un truc avec lequel, en société, on peut vraiment s'amuser parce que je dis avec les prénoms, tu peux savoir les parce qu'à chaque lettre correspond, à chaque prénom, enfin, à chaque lettre correspond à un chiffre. Voilà,
le
A c'est 1, le B c'est 2, etc., etc. Donc tu peux énormément t'amuser avec ça, avec tes initiales. Enfin, toi c'est Y,
C. Ouais.
Donc le C c'est 3, et le Y c'est 25, 2 et 5, 7. Donc t'as 7 et 3. 7 c'est le rapport à autrui, donc c'est ce que tu fais, t'aimes bien interroger les gens, etc. 3 c'est une forme de difficulté, seulement si t'additionnes les deux, 7 et 3, 10, t'es indépendant, t'es un mec qui se débrouille tout seul.
Donc ça, voilà. Fait 7 et 3, 10,
c'est
ça fait
1.
D'accord. Ok, bah attendez, j'ai pas un peu de monnaie sur moi. Ah, vachement calé. Est-ce que, lorsque tu étais, avant de démarrer ce métier, est-ce que tu avais été voir quelqu'un ou est-ce que tu as croisé une médium ou une cartomancienne qui t'a dit non, vous ne resterez pas là-dedans, vous serez sur scène,
non,
vous serez très connu.
Non, j'ai croisé des. Avant de commencer, non. Sur le chemin, j'ai croisé des. Je me souviens d'une Sénégalaise qui m'avait jeté les coquillages et qui me dit mais vous allez être connu, hein, vous. Je dis j'avais déjà commencé à faire des sketchs et tout. Je dis mais j'ai déjà fait un peu de télé. Dis, non. Ah, mais beaucoup plus, hein. Le monde entier va vous connaître. Hein. Et il se trouve que les émissions, elles sont diffusées en Afrique. Et moi, en Afrique, ils sont super connus. Parce que les amours, ça passe en prime là-bas tous les soirs.
Ah, ouh, t'es une star là-bas. T'es en Afrique, quand t'es connu, c'est fort.
Ah, mais
fort, hein.
Michel Drucker.
Et pas qu'aux Antilles, dans toute l'Afrique.
Ah, ben non, c'est assez. Et cette femme avait dit ça. Et il y a un autre mec que j'ai rencontré au Festival d'Avignon. Où là, je faisais pas de télé. Donc j'étais dans toutes mes angoisses. Parce que c'est très angoissant quand on fait que du one-man show. C'est un boulot vraiment qui vous prend la tête, vraiment.
Mais on se rend pas
plein d'angoisse.
Tu sais, il y avait des sondages.
Élie et Gad, ils en parlaient dans une interview, ils disaient ça. C'est vraiment plein d'angoisse, excuse-moi.
Ouais, non. Je dis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut avoir un respect énorme pour des gars comme toi qui montent seuls sur scène pour parler. et pour faire rire les gens, parce que dans le dramatique, je dirais que c'est presque plus facile, on suit un texte. Mais faire rire les gens seuls sur scène, et quand on fait des sondages auprès de personnes en leur demandant de quoi avez-vous le plus peur, c'est souvent de monter sur scène,
monter seul,
c'est une horreur.
Il faut
avoir quelque chose de différent, c'est comme un pilote de Formule 1, il faut avoir un petit truc en plus.
Ou alors il faut l'apprendre. Et moi j'ai appris au Club Med, c'est-à-dire que moi je donne toujours comme explication que au début on regarde ses chaussures. Enfin, au début on regarde par terre, on regarde le sol, même ses chaussures c'est encore plus plié. Et au fur et à mesure, plus on avance, plus on lève la tête, plus on se déplie. C'est-à-dire on commence à regarder le public. Après on prend de l'épaule et après on se déplie. Et quand on est complètement déplié et qu'on parle au public, alors là il y a plus, là c'est parti, ça c'est une mécanique. Mais ça s'apprend. Moi, au début, je regardais mes godasses, et puis après, je regardais les gens, puis dans ce sens, je revenais à mes godasses, je revenais à mon pantalon.
Ça s'apprend
à être mal poli.
Une lente maturation qui t'a amené à 28 ans à partir sur scène.
Mais mal poli, tu vois, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut oser faire des choses qui ne sont pas dans ton éducation. Ce n'est pas dans l'éducation de s'adresser aux gens.
Ouais, mais toi,
faut être discret, faut être bien gentil.
Et t'es dans le stand-up, et t'es dans les sketchs, alors qu'il y en a qui sont que dans les sketchs. Toi, tu cherches en plus le contact avec le public, tu arrives, tu crées vraiment un lien. Et ensuite, en tout cas dans le spectacle que j'ai vu, tu as des lieux et tu démarres.
Ah oui,
mélange de tout ça, en fait. C'est une sorte de monde parallèle où tu rejoins tout ça.
J'ai commencé dans les cabarets et dans les dîners-spectacles, ça me permettait de faire lever le nez des gens de leur assiette. T'es obligé de les intéresser à toi.
Ça doit être terrible quand t'es en face.
Là, au théâtre, les gens ils viennent te voir, ils attendent que t'arrives. Ça, c'est super facile. Dans les dîners-spectacles, les mecs sont en train de manger, il y a un mec qui monte sur scène, il dit « je vais vous faire rigoler, je suis là ». Et si tu les fais pas rigoler, les mecs, ils retournent dans l'assiette. Moi, j'ai vécu ça chez Félix, qui était un cabaret à Paris, où j'ai joué devant une table de pieds noirs. Il y en a qui parlent très, très fort, les pieds noirs. Et au bout de 5 minutes de mon tour, il y en a un qui fait « Qu'est-ce qu'il raconte, lui ?»« Je sais pas, je comprends pas, c'est pas rigolo. Alors, qu'est-ce que tu me disais, toi, Maurice ?» Ils ont niqué toute la salle, ils m'ont niqué la salle.
C'est eux qui ont fait rire, non ? C'est ça ?
Et le soir, je suis rentré. J'ai écrit un sketch pour les pieds noirs, sur les pieds noirs, en me faisant passer pour un pied noir, parce que j'arrive à prendre facilement les accents, en me disant « La prochaine fois qu'ils me refont ça, je les nique. » Et il se trouve que 15 jours après, dans la salle, il y a « Maurice, c'est bien ce qu'il fait ?»« Ouais, c'est intéressant. »« Maurice, tu es là ?» Je fais « Aïe, 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 tu es venu avec toute la famille. »« Tu es venu de la Goulette. »« Aïe, 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 aïe. »« Il est venu, Maurice. »« Pour Maurice, c'est pipi. »« Allez, pas trop cher. »« Tiens, acheté le pas de porte. »« Oui, mais c'est marqué pas de porte, alors c'est tout. J'ai acheté que ça. »
Etc.
Mais pour les niquer, parce que sinon, c'est les gens qui te niquent.
C'est un combat un peu pour toi sur scène ?
Oui, dans les galas privés, il y a des fois, c'est vraiment des. C'est même étonnant, mais là, on rentre dans les petits détails. Je te dis, comme j'en ai fait 5000, j'ai mangé mon pain noir. On se raconte, quand on s'amuse, les comiques entre nous, et qu'on se raconte nos galères, c'est extraordinaire. Hein, c'est un concept d'émission.
Il y a des grands moments de solitude ?
Tous.
Alors, où est-ce que tu trouves la force d'y retourner le lendemain et de ne pas douter ? Parce qu'au bout d'un moment, tu doutes, tu dis ce que je suis fait pour ça.
Ah ben moi, j'ai des potes qui ont tellement douté qu'ils ont arrêté. J'en connais quelques-uns qui sont aujourd'hui comédiens et tout. J'ai mon pote, par exemple, Roland Marchisio, qui m'a raconté des trucs hallucinants. Il m'a dit, j'ai vécu telle galère, le lendemain, j'ai décidé d'arrêter le one-man show.
Trop violent.
Tu prends des clacos incroyables. Tu prends des mecs qui se lèvent, qui viennent te voir, qui montent ton micro et qui te disent comment ça s'éteint, ça. Ils te disent même pas, ferme ta gueule, ils parlent au micro. C'est hallucinant. Et toi, tu continues.
T'as jamais eu envie d'en coller une
Non, parce que la violence résout rien dans aucune...
Surtout si on fait pas 100 kilos.
En ce qui me concerne, j'ai vite compris ça.
Vaut mieux faire rire que de frapper. Reste sur scène.
Alors, tu frappes avec des mots.
Ouais, c'est ça. Tac. Et tu y arrives bien. Est-ce que tu penses que tout est écrit? Ou est-ce qu'il y a un gars là-haut qui rajoute du noir, du rose, du machin? Est-ce que t'as un libre arbitre? Ou est-ce que tu dis non, moi, peut-être ce qui m'arrive...
Peut-être que tout est écrit, mais comme de toute façon on va le subir, autant le subir au meilleur de sa forme et dans le meilleur des mondes. C'est à nous de construire nos cocons. Il y a une autre phrase que je dis énormément en ce moment, et que j'aurais peut-être pas dit il y a quelques années, mais je pense tous qu'on est là où on s'est mis.
On
est tous là où on s'est mis.
On mérite ce qui nous arrive ?
Oui.
Ouais. Et pourtant, il y a une grande
Elle est compliquée, cette phrase. Mais je pense qu'on est tous là où on s'est mis. C'est-à-dire que cette phrase, elle t'aide à relativiser ce que t'as et puis à te dire, je pourrais avoir mieux. Si je veux me mettre à avoir mieux, je peux avoir mieux. Si je peux me contenter de ça, je peux me contenter de ça.
Alors moi, il y a une phrase que j'aime bien aussi. Je me contente de ce que j'aime et je ne m'en satisfais. Non, je me satisfais de ce que j'aime et je ne m'en contente pas. J'essaie d'avancer un petit peu. C'est un peu dans cet esprit.
Voilà, ou alors plus c'est en moi aussi.
Plus c'est en moi, d'accord. Ouais, c'est bien. Non.
C'était dans mon école qu'on disait ça, chez les jésuites. Plus c'est en moi.
Et cette éducation religieuse, alors ?
Ça, c'est assez fondamental.
Ouais.
Je pense que l'intégralité de nos réflexions et de nos comportements sont déjà écrits dans l'Évangile. Alors attention, c'est pas, je suis pas un prêcheur ni quoi ou qu'est-ce, ni un catholique pratiquant, même pas. Mais je pense que les meilleures leçons de vie, elles sont dans l'Évangile. C'est-à-dire quoi là, tu ne voleras point. Tu ne désireras pas la femme d'autrui. Tout plein de phrases comme
ça. Les essentiels.
Tout ce que
ça.
Vous faites aux plus petits d'entre nous, c'est à moi que vous le faites. Donnez aux pauvres parce qu'ils vous le rendront au centuple. Heureux, toutes les tu sais, heureux les pauvres d'esprit car le royaume des cieux est à eux, etc. Tout ça, tout, je pense, est heureux les chiennes. Hein, c'est ce que je dis.
Oui,
heureuse, les chiennes parturiennes, Carpaccio.
Ah oui. Alors, ma compagne avec qui je suis allé voir ton spectacle a mis du temps à la comprendre. Oui. Dans la voiture, je vais expliquer encore.
Heureuse les chiennes stériles, Carpaccio.
Hein, heureuse les chiennes stériles, Carpaccio. On était dans le lit, elle me disait, mais attends, explique-moi. Elle n'a toujours pas compris. C'est là il faut les codes. Hein. Ah ouais. Oh, bah, j'adore sur
c'est
scène.
Comme les digressions, quand je parle des digressions. Je dis, j'aime bien les digressions. Enfin, et les anglaises en général.
Ouais. Non, il faut y aller. C'est vrai que tu oses les jeux de mots quand même. Hein,
Faut assumer. C'est ce que quand je disais tout à l'heure qu'il faut assumer. Je pense que d'une manière générale, dans la vie, tu peux tout assumer. Si tu commences à douter en disant putain, pourquoi j'ai fait. Au tout début que j'ai écrit ce spectacle-là, il y avait des trucs, j'ai dit, tu peux pas dire ça. Putain, et, tout. Et puis je m'excusais sur scène. J'ai un pote, il m'a dit, je t'ai jamais vu en faiblesse comme ça. Parce que t'es en faiblesse quand t'assumes pas. Quand tu dis, excusez-moi, j'ai écrit ça, mais je suis pas sûr que ce soit bon. Non, il faut y aller. Tu dois être en force, tu ne dois jamais être en faiblesse de face aux gens. C'est toi le plus fort. Ils sont venus voir le plus fort, donc il faut que tu sois le plus fort.
Ils sont venus voir l'homme des amours. Ah, tu leur dis tout de suite, bon, c'est bon, le gars des amours, on va se calmer avec le mec des amours. Il y a aussi un comédien. Tu ne souffres pas de ça, de toute façon.
Non.
Au contraire, c'est une vraie chance.
Ce que je te dis, moi, c'est un vrai équilibre de vie. Je me suis retiré toutes ces angoisses de comédien dont on parlait tout à l'heure. Là. Si j'avais continué à faire que du one man, j'aurais eu ces angoisses et je l'aurais mal vécu. Je serais peut-être mort d'un ulcère aujourd'hui.
Ouais.
Mais en faisant de la télé en même temps, voilà, les deux ont grimpé en même temps et c'est un magnifique équilibre de vie.
C'est une sacrée sécurité du 8 que tu es, financière.
Il n'y en a aucun qui m'attend. La télé ne m'attend pas et moi, je n'attends pas forcément de la télé. Et pareil pour le spectacle.
Ça, c'est génial. Faut dire que quand même, tu es sur scène, tu es comédien, tu es à la télé, tu écris tes sketchs et tu es ton producteur. Voilà. Au moins, on borde tout ça. Me faites pas chier, c'est moi qui assume. Hein, c'est un peu ça quand
Mais
même.
Mais à la télé, par contre, je prends pas le rôle de producteur parce qu'il est beaucoup plus compliqué et que je veux pas. Je veux être cool, quoi. Voilà, je veux être cool. C'est le baba cool.
Mmh. Et alors, question aussi, puisque tu écris, pour avoir écrit 2-3 petites choses aussi, j'ai l'impression de temps en temps, est-ce que ça t'est arrivé que quand tu trouves quelque chose de vraiment fort, c'est pas vraiment toi qui le trouve, on te le donne un peu quand même, que ça vient un peu d'ailleurs, que y a une connexion qui se fait un peu particulière. Ça t'est arrivé, ça, déjà ?
Oui. D'ailleurs, j'ai coutume de dire que j'écris avec le public. C'est-à-dire, pendant que je suis en train de jouer, des fois, je trouve des vannes, boum, je dis, putain, mais ça, c'est... Et des fois, je parle au régisseur, je lui dis, note-la, celle-là, parce que je vais l'oublier. Et on trouve des trucs d'instinct avec les gens. C'est-à-dire que je pense que, pour ce qu'on disait tout à l'heure, avec ce rapport avec le public, je pense que c'est un mec du public qui y pense. Il y pense tellement fort qu'il te le renvoie dans la tête. Et tu lui renvoies. Je pense que ça doit exister comme ça. C'est vraisemblablement de la télépathie. Le mec, il hurle de rire, puisque tu viens de dire ce qu'il pense. Toi, tu hurles de rire. Il y a des moments, c'est des vrais fous rires sur les créations comme ça. Et je pense que ça vient d'un mec de la salle. Ouais, ouais.
Ah ouais.
Donc j'écris avec le public. Ouais, ouais. Mais là, il faut être complètement en empathie. Il faut être dans l'angoisse, il faut être dans l'écoute totale.
Non, mais je disais le lâcher prise, mais c'est ça en fait.
Ouais.
Franchement, quand t'arrives le premier quart d'heure, connaissant la difficulté du truc, le micro dixième que tu prends pour rebondir sur chaque chose et pas rebondir d'une façon lourdingue, c'est-à-dire tu rebondis et en même temps tu retombes sur tes pattes, t'es obligé d'avoir de l'expérience, mais dans le lâcher prise, totalement dans l'empathie.
T'es obligé d'aimer les gens qui sont là.
Tu te prépares d'une façon spéciale quand tu rentres sur scène, je sais pas, une séance d'auto-hypnose, de méditation, des trucs.
Il y a un truc que j'utilise, il y a deux choses. Je touche toujours la scène, parce que c'est dans le 8e jour, vous vous souvenez de ce film-là ?
Non.
Dans le 8e jour avec Daniel Auteuil et puis ce comédien autiste-là. Mongolien.
Je suis pas sûr de la. Ah oui, je l'ai vu il y a très longtemps. Oui, exact. Je l'ai vu
et à un moment donné, il arrête la voiture et l'autre, il fonce dans un champ et il enlace un arbre.
Ouais.
Et il dit qu'est-ce que tu fais ? Et le Mongolien lui dit quand on touche un arbre, on devient un arbre pour se protéger. Et moi, je fais ça, je touche la scène à chaque fois avant de monter sur scène. Parce que quand tu touches la scène, tu deviens la scène. C'est-à-dire que toute cette scène, c'est ta racine. Et je fais ça aussi aux amours. Je touche le plateau et voilà, je deviens le plateau.
Ah ouais, il y a une transmission d'énergie un petit peu.
Voilà,
transversale d'énergie.
Donc ça, c'est assez intéressant. Alors ça, c'est une première chose. Et il y a une deuxième chose, qui est quand je suis dans des rendez-vous importants de spectacle, quand je doute ou quand je me dis putain ce soir il va falloir être particulièrement bon, je sais pas trop, je fais un truc, c'est que je me remets dans l'état d'esprit dans lequel j'étais la dernière fois où j'avais été très bon. Je me souviens du dernier spectacle où j'ai été très bon, comment j'étais les 5 minutes avant, qu'est-ce que j'avais fait dans la journée, quel était mon état d'esprit. Et je glisse mon corps à l'intérieur de cet état d'esprit et j'arrive avec cette énergie-là.
Ah mais attends, c'est complètement de la visualisation, ça t'as jamais appris ?
Non, c'est spontané ? Non, c'est spontané, ouais.
Bah, les sportifs font ça, c'est de la sophrologie, de la PNL, appelle ça comme tu veux. Ouais, mais toi, tu fais ça spontanément.
Ouais,
tu
voilà,
retrouves l'état.
Je retrouve l'état dans lequel j'étais, le moment où j'étais bien. Et si je voulais faire un truc négatif, je pourrais retrouver un état négatif et rentrer en état négatif aussi.
Et tu l'as jamais travaillé, c'est spontané.
Ah ouais, c'est spontané. C'était mon pote Tronchet quand même qui m'avait appris ça, avec qui on s'en était beaucoup parlé. Tronchet, le dessinateur de BD, qui a tellement de talent, voire même du génie là, qui écrit les aventures de Jean-Claude Tergal et Raymond Calbut, qui est juste exceptionnel. Et on échangeait plein de choses comme ça sur nos doutes et sur des formes ésotériques en application ponctuelle.
Ouais.
Par exemple, il m'avait dit si t'attends trop quelque chose, tu vas le bloquer, tu vas bloquer l'arrivée à cette chose-là. Si tu attends un coup de téléphone, tu restes à côté du téléphone, tu vas bloquer le téléphone. Barre-toi, allume ton répondeur et on va t'appeler.
Ouais, mais alors ça, je suis d'accord. Mais alors il y en a qui vont te dire oui, mais tu attends que les choses viennent, c'est Inch'Allah, tu les provoques pas.
Si tu les attends trop, tu vas devenir ton propre poison.
Si tu les veux trop, en fait.
Si tu grinces sur le truc. Soit ça vient naturellement, mais si tu commences à grincer en disant pourquoi on m'appelle pas, putain, et tu te mets en colère après toi et après l'autre va ressentir ta colère même à distance.
Hein,
c'est peut-être également de la télépathie. Et ça va bloquer les choses. Et dans les manières de débloquer, dans ce lâcher prise dont tu parlais tout à l'heure, il y a le partir. Partir, ça fait partie du lâcher prise. C'est-à-dire, voilà, t'es dans un endroit, t'attends des trucs, tu pars. Tu prends ton vélo, tu vas faire un tour. Ou alors, tu prends ta voiture, tu vas ailleurs, tu pars. Tu reviens, tous les problèmes seront solutionnés. Faut savoir partir.
Et puis les choses, si elles doivent se faire, elles se feront.
Voilà.
C'est ça, il y a un peu de fatalisme là-dedans.
Il y a du fatalisme à partir du moment où t'as voulu qu'elles se fassent et qu'elles se font pas.
Vas-y, répète ça.
Et si tu le veux tellement, tu bloques le truc.
Mais c'est étonnant quand même. Hein, ça,
c'est,
ce mais genre
oui,
de...
c'est très très étonnant. C'est, là, c'est, en ce moment, moi, par exemple, je voudrais fondamentalement que le théâtre soit plein tout le temps. Tout le temps. Je suis tellement énervé qu'il ne se remplit pas. Et là, depuis peu, j'ai lâché, j'ai délégué à d'autres gens. Je dis, voilà, occupez-vous-en, moi j'arrive, vous me dites combien il y a. Et puis, voilà. Je pense que c'est de cette manière-là que les gens vont venir au théâtre et vont remplir la salle.
Alors, je suis d'accord avec toi, et je pense que beaucoup d'auditeurs sont d'accord aussi avec toi, mais est-ce qu'il ne faut pas quand même... Dans un premier temps, le vouloir énormément, bouger les énergies
tout
et ensuite
en
lâcher.
Ah oui, tout mettre en place pour que ça marche.
Oui, voilà, tu ne peux pas dire je veux que ça marche et rien faire.
Ah
faut
oui,
d'abord
non,
créer
non,
l'énergie.
Tu crées tous les éléments pour que ça marche.
D'accord.
Et ces éléments, ils se mettront en marche, en ordre de marche, conjointement, au bon moment.
Mais tu n'as pas l'impression que...
Mais c'est arrivé dans plein de carrières de... Parce que moi, je connaissais bien la vie des comiques, etc. C'est arrivé dans plein de carrières de comiques qui sont aujourd'hui des stars. Hein. Dany, il était au théâtre Tristan Bernard.
Dany Boone.
Ça marchait pas, ouais, Dany. Il a joué Dany également au Lucernaire. Il y avait personne qui venait alors que tout le monde disait c'est le nouveau comique, faut aller le voir, etc. Et puis à un moment donné, tac, 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 le truc s'enchaîne. Muriel Robin, elle était prête à arrêter le One Man Show, je me souviens aussi. Et puis elle a fait la première partie de Jerry Lewis et tac, 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 ça a démarré là. Au moment où tu es tellement dégoûté, tu dis j'arrête, c'est là que le truc arrive et que j'en ai tellement marre d'attendre ça. C'est comme les mecs au foot qui doivent attendre leur sélection, quoi. À un moment donné, ils se disent bon, allez, maintenant je joue pour mon équipe, je joue pas pour ma sélection et c'est là qu'on les sélectionne.
Mais des fois, ça vient pas. Il y en a plein qui ont arrêté parce que c'est pas venu. Je me voyais déjà en haut de l'affiche.
Ils ont peut-être arrêté trop. Oui, mais est-ce que c'est un objectif, le haut de l'affiche ? Tu sais, le bonheur, il est sur le chemin, il n'est pas au sommet. Est-ce que c'est un objectif d'être au sommet ? Pas forcément.
Alors, c'est vrai ce que tu dis, hein, quand on lâche prise...
À nouveau, on est tous là où on s'est mis.
Ouais.
Pas forcément au sommet.
Oui, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Le chemin est plus important que le but, ça c'est vrai. Mais... Alors, je suis d'accord avec toi, mais il y en a pour qui, il me semble, ça a l'air plus facile dans la vie, c'est-à-dire qu'ils génèrent l'énergie et puis, bah, naturellement, elle avance. En tout cas, c'est l'impression qu'ils donnent. Puis, il y en a qui génèrent l'énergie et puis ça se fait pas. Ou alors, ils arrêtent trop tôt.
Non, mais t'as raison de dire, c'est l'impression qu'ils donnent. Parce qu'on sait pas quelle est l'angoisse de ce mec-là quand il va se coucher.
Ouais.
Moi, je dis, tu sais, quand quelqu'un s'engueule avec un autre et tout, et dit, ouais, putain, c'est quel sale con, qu'est-ce que tu ferais et tout, je vais lui pourrir sa boîte téléphonique, je vais lui mettre de la morora dans la bouffe de son chien et tout. Je lui dis, écoute, la seule chose que tu dois imaginer, c'est ce soir, au moment de se coucher, qui est-ce qui va dormir le mieux des deux ? Est-ce que c'est toi, une fois que tu auras mis de la morora à son chien ou toi, ou c'est lui en ayant tort face à toi ? Voilà, c'est tout. Qui va le mieux dormir dans un conflit? Qui des deux va le mieux dormir le soir qui suit?
Les connus face à l'inconnu, avec Yves Cara.
Et toujours avec Tex dans Les connus.
Et la harpe.
Et la harpe. Les connus face à l'inconnu avec Tex. Au théâtre de 10h tous les vendredis, samedis à 21h30. Et puis dans toute la France, vous allez sur le site www.tex-comique.com.
Festival d'Avignon, normalement, je vais faire aussi des dates au Festival d'Avignon, ça fait longtemps. C'est parce que quand t'es dans l'envie, faut y aller. Voilà, je suis dans l'envie, j'ai envie de jouer, j'ai envie de me marrer, donc voilà.
Puis c'est une année 8, difficile au niveau pognon, faut y aller. Hein.
Non, mais elle s'arrête en avril, parce qu'elle s'arrête à ta date anniversaire.
Ça va alors.
Faut calculer les dates anniversaires.
Je viendrai manger chez toi en mai, comme ça il y aura à manger.
En mai, Royal Bar. C'est l'année de la chance.
Et pendant la pause, t'as même retrouvé le nom des
clowns italiens qui s'appelaient les Colombaioni, voilà.
Colombaioni, vous voyez.
I Colombaioni.
Il a recherché ça. Est-ce que tu crois à la réincarnation?
Non, Tex. Non. Non, parce que...
C'est un one-shot?
C'est pas ça. Moi, j'aurais le souvenir de quelque chose, si j'étais quelqu'un d'autre.
Bah non, justement, pas forcément.
Bah ouais, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle sert à rien.
Attends, peut-être que tes dons innés de monter sur scène, d'avoir ça, ça vient peut-être d'une vie antérieure.
Mais ça, c'est de la translation et du karma. Ça, c'est autre chose. Je crois plus au karma et à la translation. Mais la réincarnation, en soi, j'y crois pas, parce que tu devrais avoir un minimum de souvenirs de la personne et on n'en a pas.
Ah ouais, mais le karma.
Il y a des gens qui s'inventent un peu des souvenirs, mais.
Oui, mais le karma, c'est une succession de réincarnations et tu amènes avec toi ton karma. Ça,
oui, mais le karma, c'est c'est-à-dire tu nais avec un sac à dos, tandis que là, en croyant à la réincarnation, c'est au lieu de naître avec un sac à dos, tu naîtrais avec une autre enveloppe corporelle. Donc, je la vois pas cette autre enveloppe corporelle, je la connais pas, pas du tout. J'ai aucune préhension de ça, d'accord. Ni même du karma. Hein. Le karma, ça reste quand même. Je pense peut-être que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, donc j'ai eu la chance que peut-être dans d'autres vies j'ai pas eu. Voilà.
Ah bah donc il y a réincarnation, s'il y a eu plusieurs vies.
Ouais, mais je fondamentalement, tu vois la différence que j'y mets, c'est que comme je ne vois aucune enveloppe, aucun personnage, aucun référent, je crois pas à la réincarnation.
Et si tu avais été quelqu'un d'autre dans une autre vie.
Je crois à des esprits, quoi, si tu veux. Je suis accompagné par des esprits, mais pas par des entités vivantes qui seraient ce qu'on appelle la réincarnation, soit d'un chien, soit d'une fourmi, soit d'un autre personnage. En plus, à chaque fois que j'ai entendu des gens te parler de réincarnation, il y en a pas un qui t'a dit
J'étais plombier,
j'étais soldat dans l'armée romaine, j'ai été tué à 15 ans. Il n'y en a pas un qui te dit ça. Ils étaient tous Jules César, l'autre c'était Napoléon et l'autre c'était le bateau.
C'est vrai. Attends, tu as dit que tu croyais aux esprits, tout ça. Tu as un ange gardien?
Je crois aux anges gardiens parce que je suis croyant.
Jésuite, hein, l'éducation jésuite.
Non, il y a un curé, le curé qui a fait la communion de mes enfants l'autre jour, il me dit, je lui dis quand même, on parlait d'un truc très ponctuel, je lui dis quand même, moi je me balade dans Paris. Je peux pas me garer en bagnole. Ah, il dit, mais alors, ça tombe bien que vous parliez de ça. Il dit, moi, j'ai mon ange gardien, il est toujours avec moi. Quand je cherche une place, j'en trouve une. Depuis qu'il m'a dit ça, je trouve beaucoup plus de place parce que je pense à mon ange gardien et il m'en trouve une.
Ah oui, alors ça marche. Je suis d'accord avec toi.
Voilà, ça marche.
Quand tu arrives en disant, j'en trouverai une. Alors, ça marche peut-être pas à tous les coups, mais plus que si tu arrivais, si tu étais négatif.
Peut-être que c'est l'appel au ciel. Alors là, tout d'un coup, c'est très croyant. Mais l'ange gardien, peut-être qu'il est là. Alors, on n'est pas, attention, hein, la religion catholique, ce n'est pas une religion monothéiste, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
C'est-à-dire?
Bah parce qu'il y a Dieu, il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit, il y a les apôtres, il y a les anges.
Enfin, les apôtres ne sont pas des dieux.
Oui, mais tu peux aller chercher dans tous ces gens-là un référent, et tu peux aller chercher ton saint patron, par exemple, et voilà.
Saint-Jean, tout ça,
Saint-Paul,
d'accord.
Tu n'es pas obligé de croire à une seule entité, mais une entité avec autour plein de... C'est pas monothéiste, forcément. La seule qui soit uniquement monothéiste, et c'est pour ça qu'elle est très pénible, c'est la religion musulmane. Mmh. Et celle-là, elle est exclusivement monothéiste.
Ouais, parce que t'as le patron, il dit ça, et puis voilà, d'accord.
Il n'y a que le patron.
On peut même pas s'en référer à d'autres qui atténueraient quelque chose.
On peut dire, ouais, Jésus, il est
l'évangile selon Saint Jean,
Jésus, il n'avait pas de femme, etc. Oui, mais il y a quand même Marie. Oui, mais Marie, elle n'a pas toujours été... Si, Marie, c'est la Sainte Vierge. Quand même, ça n'existe pas. Oui, mais il y a Marie-Madeleine, etc., etc., etc. Voilà, tu peux chercher des référents un peu. Donc, c'est beaucoup moins monothéiste que l'islam.
Et alors, tu parles beaucoup de religion. Tu as été donc chez les jésuites. Tu apprécies effectivement ce qu'il y a dans la Bible. Est-ce que tu confonds foi, est-ce que tu mélanges, je dirais, foi et spiritualité?
Oui, assez volontiers. Je pense que c'est intimement lié, oui.
Pourtant, les religions, on peut être très religieux sans être...
Mais regarde, tu es assez spirituel quand même.
Ah, t'es très spirituel.
Voilà,
ça, sur
Jésus dit à Saint Matthieu, descend du train et gonfle les pneus. En plus, je déconne avec ça. C'est-à-dire que Jésus, Père et Fils, vin et spiritueux.
Ah oui, on fait nous un petit extrait.
Tout le monde pourra boire un coup et à partir de maintenant, on appellera ça le droit canon. Donc, tu peux déconner avec tout ça. Et je trouve ça assez sain d'ailleurs de pouvoir se moquer de sa religion.
Ouais, mais
ça fait respirer un peu.
Tu pries de temps en temps ou tu médites ou des choses comme ça ou...
Personne ne médite. J'ai écrit des bouquins et des bouquins. Personne ne médite.
Ouais, le mignon, je l'aime bien. Ça fait partie des jeux de mon texte. Mais est-ce que
quand je suis dans des lieux de culte comme des églises ou tu sais malheureusement en ce moment j'y vais plus volontiers pour des enterrements.
Ouais.
Quand je suis à des mariages ou des baptêmes, oui, inévitablement j'en profite pour verser ma petite obole. Et ma petite larme et mes petites demandes, voilà. Mais en même temps, tu sais, plus t'avances, plus tu te dis, je suis pas là pour demander, je suis là pour donner. Donc c'est compliqué. Donc oui, bien sûr, mais c'est un mélange global la spiritualité. Hein.
Ouais, ça c'est vrai.
Et j'ai l'impression d'être beaucoup plus utile sur scène. Voilà, moi, au-delà de la spiritualité, plutôt que d'être moine et de m'enfermer dans un couvent, moi, je distribue la bonne parole de la déconne. Je le sens comme ça, c'est super prétentieux.
Non, il faut assumer, monsieur.
J'assume,
t'as raison. Mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, et ça reflète un petit peu tout ce que tu es, tout ce que tu dis, tu aimes profondément les gens.
Oui, voilà, oui,
c'est la base, pas pour tout le monde, il y en a qui sont sur scène.
C'est justement pour ça que c'est une des bases, je disais que tout était dans l'évangile, parce qu'on dit « aimez-vous les uns les autres », voilà, comme Dieu vous aime, ça c'est même un accessoire, mais « aimez-vous les uns les autres », c'est à partir de là, c'est tellement simple, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de se faire la gueule, on fait beaucoup plus d'efforts à faire la gueule à quelqu'un qu'à l'aimer. L'aimer, c'est tout simple, c'est voilà, le supporter avec son caractère, ce machin et tout. Voilà.
Mais au quotidien, c'est pas facile à vivre parce que l'agressivité quand même dans Paris, dans tout ça.
Oui, moi ça m'arrive même tout à l'heure, ça m'est arrivé de faire un doigt à quelqu'un qui me fait une queue de poisson à 50 cm à 80 à l'heure. Je trouve ça un peu minable, mais pour autant, bon, dans
Il n'y a pas de rancune,
mais je me faisais cette réflexion justement en étant en bagnole. Je dis vraiment. Quelle attitude on peut avoir en bagnole? On est d'une agressivité qu'on n'oserait même pas développer quand on est en vélo, qu'on n'a même pas le temps.
Ouais, on est moins protégé, surtout en vélo. Ouais. Tout de suite, ça va un peu moins bien. Allez, autre sujet qui plaise bien à nos auditeurs. Parlons, on va partir
un jour sans retour.
Voilà, dans les cieux. Est-ce que tu crois qu'on est seul dans l'univers? Est-ce que c'est une question
que
qui te traverse l'esprit?
Est-ce qu'on est seul dans l'univers? Je pense qu'on a surtout déjà beaucoup de mal à s'organiser entre nous sans aller chercher des entités extérieures. Ça, c'est une réalité. Je pense qu'on est seul, oui.
Ah ouais.
Je pense qu'on est seul, à part d'autres, peut-être, micro-organismes d'un autre monde. Mais on ne connaît déjà pas notre monde abyssal. Donc, on a déjà tellement à découvrir sur Terre.
Donc, il n'y a pas d'ovnis, tout ça, qui sont venus, tout ça. Toi, c'est pas...
Voilà. Selon moi, non. Je ne suis pas sur ce
T'as pas d'amis qui auraient vu des ovnis, des choses, des observations?
Non,
t'as jamais
on a vu... Non, mais on a vu des... Même moi, j'en ai vu des phénomènes paranormaux dans les cieux, etc. Mais
attends,
on connaît la persistance rétinienne et ce qui est dans les yeux, et que si tu veux vraiment percevoir une étoile qui se trouve à des milliers d'années-lumière, celle que tu vois, c'est celle que tu devrais voir normalement le lendemain. Donc, c'est-à-dire, il y a des persistances rétiniennes de trucs qui sont peut-être déjà arrivés. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des mecs qui ont cru voir des ovnis, alors que en réalité, c'était les reflets de la bombe de Muroora qui datait d'il y a 2 ou 3 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a des persistances rétiniennes et des choses qui arrivent dans l'espace-temps et qui nous échappent complètement. Enfin, nous qui ne sommes pas des théoriciens de ça. J'ai juste un petit peu abordé le problème, tu vois, en parlant comme ça, mais. C'est vraiment, après, tout ça est théorique en termes de persistance rétinienne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous reste au fond des yeux?
D'accord, donc on crée son propre univers, en fait.
Hein, qu'est-ce qu'on a, nous, au fond des yeux? C'est ça ma question quand je parle de persistance rétinienne. La rétine, c'est ce qu'il y a dans le fond de l'œil. Ouais. Qu'est-ce qu'on a au fond de l'œil? Il y a des moments, moi, par exemple, j'ai, comme je commence à avoir un certain âge, je vois beaucoup moins bien qu'avant, et j'ai une bande verte qui arrive en dessous quand je lis. Quand je lis et que je suis fatigué. Tout d'un coup, je suis fatigué, je suis en voiture, je vois cette bande verte. Et puis je fais trimballer mon œil et je fais « Oh putain, il y a une bande verte là, elle a disparu. » Elle est juste au fond de mon œil en fait.
C'est une illusion.
Ouais.
C'est ton univers à
c'est
toi.
C'est au fond de ton œil.
Elle n'existe pas en fait.
C'est un truc qui se mélange entre ton cerveau, tes différentes connexions neuronales et tes ménages, quoi, tu vois, et qui vient, je crois plutôt à ça, à des phénomènes paratechniques.
Donc tu voudrais dire que ouais, mais alors comment tu expliques des pilotes de chasse qui sont en mirage et puis qui voient un objet, ils sont deux, ils voient le même, qui les dépasse.
Plus, mais encore plus chez eux. Eux, ils subissent des jets dans le casque, machin. Non,
mais attends, d'accord, mais ils sont deux, ils voient la même chose, le même objet qui se déplace.
Il y a un des deux qui a beaucoup plus de persuasion et qui persuade l'autre qui l'a vu.
Eux, c'est encore pire.
Ils ont le cerveau, tu sais, compacté. C'est pour ça qu'ils mettent des casques pour éviter que le casque soit que le cerveau soit trop compacté. Ils ont le cortex super compacté. Le cortex vient taper dans la persistance rétinienne. Le mec, il voit un truc, il l'a dans ce que je viens de t'expliquer. Il l'a dans l'œil inévitablement. Il l'a là. Et à un moment donné, ça s'en va parce qu'il est à Mach 2, le mec. Imagine à Mach 2, tout ce que tu vois, tout ce que tu vois pas, tout ce que
c'est ton analyse. Ça.
Oui, oui. Ouais. C'est peut-être trop technique, mais oui, c'est mon analyse. Je pense que c'est des choses qu'on s'invente sans les inventer parce qu'on les a vues pour de vrai.
Oui, voilà, ça fait partie pour toi de son univers. Et c'est le premier qui en parlerait, réussirait à convaincre l'autre.
Ah oui,
quand il y a deux pilotes de chasse qui voient la même chose.
Oui, les deux qui voient la même chose.
En même temps, la même chose, même ça, t'es pas douté, ça.
Si, peut-être, mais ça, je pense que c'est d'un autre domaine qui serait peut-être qui serait du domaine de Mach 2, quoi. Voilà, donc là, tout d'un coup, le domaine de Mach 2, il n'y a pas grand monde qui a été le visiter quand même. Hein.
Allez, j'essaie de te faire douter, mais dans une ville. T'as plusieurs personnes qui voient une espèce de gros vaisseau qui passe au-dessus. Il y a plusieurs centaines de personnes qui voient la même chose.
Alors, c'est peut-être un satellite d'il y a quelques années qui est en feu, qui est en train de dégringoler, qui s'est auto-détruit, tu sais. On voyait tellement de saloperies là-haut, ça, là, tu vois, dans Gravity. Hein. Le truc, il est en train de se déglinguer. Tout le monde le voit se déglinguer. Il dit, c'est un ovni. Bien sûr, c'est un ovni. C'est le truc, il est en train de prendre feu à 15 000 km de nous. Donc on a juste que l'idée d'une boule de feu. On a vu une boule de feu, puis elle a disparu. À un moment donné, elle se consume et elle disparaît. Je pense que tout ça, c'est très technique. Je pense que ce n'est pas des extraterrestres et des choses comme ça.
On est seul dans l'univers.
C'est le sentiment, oui.
Ouais. C'est pour ça que tu es seul sur scène. Voilà, on est tout seul dans l'univers, je serai seul sur scène. Je vais faire un one-man show, je m'appelle Tex et c'est comme ça. Et je ne suis pas une illusion.
Non, mais je pense que oui, nous, les êtres humains tels qu'on nous représente, je pense qu'on est, seul dans l'univers. Oui.
Ça va avec la religion, ça ? On enseigne vraiment ça dans la religion ? On est seul
Non. Puis la religion, tu sais, elle te laisse une grande part. Notre religion catholique, en tout cas, elle nous laisse une grande part d'improvisation. Hein. C'est formidable, hein.
Ouais, enfin, il y en a qui lisent entre les lignes et qui imposent un peu de temps en temps leurs idées. Après, voilà.
Il faut les envoyer au casse-pipe, hein, les Sénégalais. Et puis, les premières lignes de 14-18, il a fallu les envoyer au casse-pipe. Il faut leur faire croire
deux, trois petites choses.
Ouais. Tu sais, là, si demain on devait faire une mobilisation générale, on n'aurait pas autant d'adhésion qu'en 14-18 avec le doute qu'on a, qu'il y a en ce moment dans nos sociétés. Voilà. Ouais.
C'est la culture et l'information.
Hein. Ouais, voilà. Ouais,
c'est sûr. C'est sûr qu'on aura un petit peu de moins. D'ailleurs, quand on a des enfants comme toi, qui ont trois enfants, et qu'on se projette un petit peu dans l'avenir, est-ce que tu vois une société qui sera plus métaphysique, plus ésotérique, plus tournée vers des choses qui sont moins matérielles ?
Moi, je crois énormément aux cycles, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je pense que les cycles font...
Tout n'est que vibration, de toute façon.
Voilà, hein. Et les cycles font modifier les états d'esprit généraux.
Alors, on va où, alors, là ?
Là, je trouve ça assez rigolo que le président, avec ses histoires d'amour... ramène l'amour au premier plan. Je trouve assez passionnant que des mecs comme Domenac ou Zemmour s'engueulent au sujet de l'amour. Je trouve assez surprenant que les discussions de salon qu'on peut connaître habituellement tournent autour de est-ce qu'il l'aime, est-ce qu'il l'aime pas, est-ce qu'elle est enceinte, etc. Tu vois, cette légèreté de cours presque, ça m'amuse et ça me passionne un peu plus.
Ça te fait du bien ?
Ça m'amuse un peu plus que les est-ce qu'il va falloir casser la gueule aux Chinois ? Est-ce que l'économie allemande va déborder l'Europe ? Ou est-ce qu'il va falloir renflouer les Espagnols plus que les Portugais, etc. Tout ça, c'est tellement compliqué, c'est tellement pas de notre domaine que j'aime autant qu'on parle de choses légères. Moi, je suis le chantre de la légèreté. J'ai certainement tort de mettre tout là-dedans. Mais moi, je suis là pour faire du divertissement. Mes ennemis, c'est les journalistes. Basiquement. Hein.
Désolé.
Mes ennemis sont les journalistes. Nous, on fait du divertissement et de l'autre côté, il y a de l'information. Voilà. Il faut que les deux choses soient équilibrées.
D'accord. Et c'est Laurent Voulzy que j'aime beaucoup, que tu dois beaucoup connaître peut-être et apprécier. Ouais. Dans une émission, il a dit ça d'une façon que j'ai trouvée merveilleuse. Il parlait justement un petit peu de l'avenir. Il a dit, on n'a pas d'autre choix que l'amour. Et j'ai trouvé ça merveilleux, c'est-à-dire que pour avancer, pour évoluer, tu mets tout ce que tu veux là-dedans. Ah
ouais,
l'amour
ouais, ouais.
qui n'est pas le contraire de la haine. Mais il dit, mais on n'a pas d'autre choix que l'amour.
Ah ouais, c'est assez
et j'ai
joli,
trouvé
ouais,
ça
ouais.
d'une simplicité magnifique.
Ah ouais, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, entre aimons-nous les uns les autres parce qu'on n'a pas d'autre choix, quoi, en fait. Et puis, c'est tellement plus facile de passer de l'énergie à aimer les autres. Parce qu'on n'a pas besoin d'énergie, c'est simple, ça roule comme ça. Alors qu'on passe de l'énergie à pas s'aimer, hein. On passe des mauvais coups de fil, on s'énerve et après on dort mal la nuit.
Ouais, tout à fait.
Voilà, il faut bien dormir la nuit.
T'as un truc pour bien dormir, toi, la nuit ?
Pas m'énerver. Et puis, si quelqu'un m'enquiquine ou si une situation où j'arrive pas à gérer, je change de trottoir.
Tout simplement.
Ouais,
tu l'évites. Tu l'éloignes de ton.
C'est ce que je fais. Voilà, ouais.
Tu le sors de ton cercle d'influence.
Voilà, exactement.
D'accord.
Là, tu vois, ça aurait été super dur, par exemple, dans les conditions actuelles, de jouer à Paris du mardi au samedi.
Pourquoi ?
Parce que c'est difficile en ce moment de remplir, etc. Ça aurait été vraiment une épreuve pour moi. Parce qu'au bout de 25 ans de carrière, ça aurait été trop difficile, ça aurait été une épreuve. Donc j'ai diminué ce créneau-là jusqu'à jouer, que je devais jouer normalement jeudi, vendredi, samedi. Et puis je suis resté qu'à vendredi, samedi. C'est un luxe immense. Mais ça participe de ça. J'ai éloigné de moi ce qui était une difficulté pour garder que la crème.
Ouais, mais ça, c'est un luxe qu'on peut se permettre quand on est à ton niveau. Mais quand
oui, c'est vrai aussi. C'est une chance et un luxe qu'on peut se prendre, mais ça participe du fait que voilà. Ou sinon, je l'aurais pas fait du tout.
D'accord.
C'était ça. Sinon, je le faisais pas. Ouais. Du tout.
T'éloignes en fait les possibilités
d'échecs, de
mauvaises pensées, de négatives.
De choses que tu vas mal vivre, quoi.
Et qu'est-ce que tu dis à tes enfants alors quand j'en reviens à ça, parce que ce que tu dois transmettre, c'est pas évident. Est-ce qu'ils t'écoutent? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que t'as envie qu'ils développent?
Il y a un
truc
terrible sur l'éducation qui dit que de toute façon, le père, il peut dire ce qu'il veut. On ne l'écoute pas. On ne garde que des bribes ou des traces. Mais tout ce que peut faire le père, c'est au talabalaye.
Attends, et l'exemplarité, parce qu'ils regardent quand même, ils reproduisent.
Oui, l'exemplarité, hein, t'as tout à fait raison.
On n'a pas besoin de le dire, hein. Ils regardent, ils observent, et nous, on a été enfants aussi vis-à-vis du père, et on reproduit.
Mais oui, mais moi, si je pense à mon père aujourd'hui, je dis, qu'est-ce qui m'a... Je m'en fous, en fait.
Ah ouais.
J'ai l'impression d'avoir fait le chemin tout seul, ouais.
T'as rien gardé ?
De mon père, non. Mais énormément, intuitivement, beaucoup plus de ma mère. Alors c'est peut-être parce qu'on est des garçons, hein, je ne sais pas comment vous voyez ça. Mais si, mon père, je sais qu'il m'a mis 2-3 bonnes branlées, donc je me suis dit, bon voilà, la force elle est du côté du père, c'est lui qui donne l'autorité, voilà, c'est ce souvenir-là. Mais c'était pas
mère,
méchant, hein, il était aussi malheureux que moi. Hein.
Ta mère, c'était une femme de scène déjà, un petit peu, quelquefois ?
Ma mère, c'était le Premier ministre. Elle aurait pu être Premier ministre de la France.
Ouais,
elle
s'appelait
le Premier ministre à la maison.
Ouais. La reine-mère, Premier ministre, toujours ?
Voilà. Thatcher.
Ils doivent être trop fiers de leur fiston.
Plus maintenant, parce qu'ils ont maintenant ils sont âgés, mes parents. Donc après, tu deviens papy et mamie gâteau. C'est plus rigolo, ça, cette période-là.
Bon, alors on arrive au terme de cette émission dans quelques minutes. Donc on a appris plein de choses intéressantes sur toi, notamment que tu es dans ce cycle de numérologie. Tu es en 8 et en 9.
Je suis en 8 et bientôt en 9. Voilà.
C'est l'année de la chance qui pose donc les bases pour les 9 prochaines années.
C'est aussi l'année du cheval, parce que je connais aussi un peu l'astrologie. Ça, c'est l'astrologie chinoise. Là, on est dans l'année du cheval. Je crois même que c'est l'année du cheval de feu. Il faut savoir que les femmes cheval de feu, il est sacrifié à la naissance.
Ah bon ?
Ouais. C'est tous les 48 ans, hein, c'est ça. Donc, on est en cheval de feu cette année, je crois qu'il y a 4...
Alors cheval, j'en suis sûr, de feu, je ne sais pas, mais c'est quand même pas de peau. Tous les 48 ans,
une fille. Les femmes étaient... c'est-à-dire que si vous rencontrez aujourd'hui une femme de 48 ans, si vous vivez avec une femme qui va... Bon courage. Et
48, mais là, ça va, 57, c'est bon.
Non, mais voilà, mais 48, c'est des périodes difficiles. Et les Chinois les tuaient à la naissance, ça c'est pour les chevaux. Et puis c'est vachement intéressant aussi les signes du zodiaque. Moi je suis bélier, je marche normalement en tête du troupeau et je vais passer en année 9 au mois d'avril. Donc voilà, je sais tout ça.
Bélier, ça te ressemble complètement. C'est-à-dire que t'es un gars qui fonce, qui avance. Faut un peu être bélier. Il y a beaucoup d'ailleurs d'artistes tout ça qui sont béliers parce qu'il faut être en meute. Être devant la meute, faut avancer, il faut avoir du courage.
Faut avancer avec les autres.
Faut foncer quoi. Mmh. Hein, donc ça te ressemble complètement.
Faut avoir son petit troupeau avec soi aussi, de fidèles, etc. Et puis le bélier. Et puis moi en plus dans les je suis bélier et balance, c'est-à-dire que
le signe des artistes, bien sûr, balance.
Et comme en chinois je suis rat, voilà, le rat c'est le 8 et le rat, voilà, ça se complète.
Non mais ça, ta vie privée, rat, oui, voilà, on dépense pas, on engrange, même un café il nous a pas payé. Attends,
aïe. Maurice,
bon texte,
il est drôle, faut le dire vite.
Tex était l'invité de cette émission, les connus face à l'inconnu. Et merci.
Ça y est. On l'évite. Bah, merci à vous de m'avoir reçu. Et puis, ce qui est assez rigolo dans cette émission, c'est que vous recevez un mec connu à 20 ans, vous le recevez à 30, à 40 et à 50, et toutes ces certitudes qu'on a énoncées, elles changent sans arrêt.
Et on terminera là-dessus. Merci Tex, allez le voir au Théâtre de 10h, allez sur son site tex-comique.com, vous aurez toutes les dates pour aller voir sur scène. Allez le voir sur scène, il est extraordinaire.
Je suis un fou !
Les connus face à l'inconnu, tous les mercredis de 12h à 13h, avec Yves Carra.